gathered together in bands. The bleeding hearts and the artists make their stand. And when they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Banging your heart against some mad bugger's wall.
Présente dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre. Poursuite contre la mort. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Enregistrement, CVRP. Après avoir dîné au restaurant, François Lequerre décide de rentrer chez lui à pied. La nuit est douce pour un mois d'octobre. En semaine, à 2h du matin, les rues sont presque vides. Il longe le palais de justice et voit arriver vers lui une femme qui marche d'une façon nonchalante. Elle est grande, mince, les cheveux longs qui ondulent, est habillée d'un tailleur rose et porte à la main une pochette noire. Arrivée vers François, elle lui demande « Vous avez une cigarette, monsieur ?»« Oui. » Il sort un briquet de sa poche et le lui tend. « Merci. » Elle prend une cigarette. Du feu ? Il lui tend son briquet. François la trouve très belle. Son visage est d'une grande pureté, tellement pure que ça le rend mystérieux. Elle aussi le regarde. Je me sens pas rassurée. Vous pouvez m'accompagner jusqu'à ma voiture ? Oui, bien sûr. Elle est là-bas. Ils y vont. J'ai passé la soirée chez des amis et ils m'ont lâché. Il lui dit, les gens sont d'une incorrection. Ils sont arrivés devant une voiture blanche de sport. Je peux vous accompagner jusqu'à chez vous? Je vous remercie, je ne veux pas. Allez, montez. Vous m'avez accompagné jusqu'à ma voiture. C'est pour vous remercier. Bien, comme vous voulez. Elle entre dans la voiture, le fait entrer. Vous habitez où? Avenue Foch. C'est pas bien loin. Et elle met en route la voiture. Sa jupe est courte, il voit ses jambes. Elle aussi l'observe. Je me nomme François Leclerc. Moi, c'est Nathalie. Arrivée vers les quais du Rhône, elle lui demande, vous êtes pressé? Pas vraiment, demain c'est mon jour de congé. Si vous le désirez, je peux vous amener dans ma maison de campagne. Ce n'est pas loin. Et elle arrête sa voiture en douceur. Se penche vers lui. Je n'aime pas aller chez un homme. J'aime mieux qu'il aille chez moi. Il lui caresse ses cheveux et l'embrasse sur la bouche, puis sourit et met la voiture en route. Elle lui dit, lorsqu'une personne me plaît, je le lui dis. C'est tout. Cela vous choque? Non? Un peu surpris, mais c'est agréable. C'est ce que je veux. Ma maison n'est pas très loin. Vous verrez, elle est très belle et au bord d'un lac. Après une heure de route, elle a arrêté sa voiture devant une vieille maison de deux étages, en retrait des habitations. Il y a juste une autre maison un peu plus loin. Voilà, nous sommes arrivés, il lui demande. Nous sommes où? Vous le saurez demain matin. Cette nuit, il n'y a que nous deux. Venez. Et ils sortent de voiture. Elle le prend et le mène devant la porte d'entrée qu'elle ouvre. Elle la fait rentrer, éclair. Le hall est vide, juste un escalier de bois. Elle fait chut, lui prend la main et il monte à l'étage. Puis, suivent un couloir. Elle ouvre une porte. Le fait rentrer. C'est ma chambre. La pièce est mal éclairée, et laisse des coins d'ombre. Il y a un grand lit, une armoire, une coiffeuse. Ce sont de vieux meubles du 19e. Elle jette à terre sa pochette et quitte ses chaussures. Elle se prend à son cou et se couche sur le lit. Et le plaque sur elle. Il voit ses yeux, ses grands yeux noirs. Il sent son parfum. Mélange de plaisir et de trouble, angoisse, sueur, peur, appel de la jouissance, haine, fatigue, poids du cœur, eau trouble, épuisement, repos. Lorsque François se réveille, il fait grand jour dans la pièce et il voit qu'il est seul au lit, nu, ankylosé. Il se soulève. Nathalie. Pas de réponse. Se lève. Trouve son slip à terre, le met ses chaussettes et ses chaussures. Sort de la chambre. Nathalie. Pas de bruit. Il frappe aux portes. Personne. Ni au premier, ni au rez-de-chaussée. Il a ouvert une porte, c'est la cuisine. Il va prendre une tranche de pain sur la table et le mange. Elle a dû sortir. Et il retourne à la chambre pour s'habiller. Une fois habillé, il va au salon qu'il a vu en la cherchant et qui est au rez-de-chaussée. S'assoit sur un fauteuil. Prend une revue qui est à terre, c'est Nouvel Observateur et le feuillette. Une heure plus tard, elle n'est toujours pas là. J'ai faim. Tant pis, je vais me payer un petit quelque chose. Et il va à la cuisine pour voir ce qu'il y a dans le réfrigérateur. Il a pris du fromage blanc et s'est mis à table. Après avoir mangé, ne sachant quoi faire, et sentant que la maison est vide, il décide de sortir. Le temps est gris. Devant la maison se trouve la voiture. Au jour, la maison semble délabrée et le parc non entretenu. Il fait le tour de la maison. Se trouve un lac. Le manque de soleil le rend lugubre. Tiens, mais qu'est-ce que cela? Il s'approche de la berge et voit flotter sur le dos, sur le lac, le corps de Mathilde, nu, le regard hagard, la langue pendante. Merde! Merde! Affolé, il se sauve. Affolé, il court. Devant la maison, voit la voiture. Les portières n'ont pas été fermées à clé, et les clés sont sur la voiture. Il entre dedans et la met en route. Juste avant de sortir du parc, il a vu qu'un homme l'observait. Une heure plus tard, il a garé sa voiture sur les quais de Saône et est rentré chez lui à pied. Son appartement se trouve dans un immeuble cossu, avenue Foch, au 3e étage. Il appartenait à sa mère, mais une fois qu'elle est morte, il l'habite. Les murs sont blancs, presque pas de meubles, ni bibelots, ni tableaux. Le salon est simplement un canapé, deux fauteuils en cuir blanc et une table basse en verre. Une chaîne IFI, des piles de livres dans un coin. La chambre, juste un lit et une lampe de chevet à terre. Chez lui, il souffle un coup, puis va au salon. Prendre un verre et une bouteille de bourbon qui se trouve à terre. Quelle histoire! Que s'est-il arrivé? Faut plus y penser, autrement il est quoi devenir fou. Tâchons de vivre comme s'il ne s'était rien passé. Il prend deux comprimés de Gardénal et va se coucher. François, 35 ans. Il est grand, mince, le visage encore enfant. Fait partie de ces hommes qui ne vieillissent pas, qui ont l'air d'être éternellement des enfants sages par leur physique et leur comportement. Ce genre d'hommes que les femmes aiment car elles ont l'impression de faire l'amour avec un enfant. François vit seul, mais a une relation régulière avec Béatrice, femme de 25 ans, qui est dans les affaires et voyage beaucoup. François est professeur au lycée du Parc, il enseigne le français à des jeunes de 4e. Il aime son métier, n'a pas trop de problèmes, les élèves sont dans l'ensemble calmes. Après cette malheureuse aventure, il a repris sa vie comme si rien n'était. Un samedi après-midi, le téléphone sonne. Il prend à terre et le décroche. François Leclerc, j'écoute.
Je suis une personne qui sait que vous avez passé la dernière nuit avec Mathilde Granger. Vous m'entendez ?
François Chaud.
Oui ? Bien, je vous donne rendez-vous au 5 rue 16. Vous trouverez la clé dans votre boîte aux lettres. C'est au premier appartement à droite en montant les escaliers. Vous entrez, vous attendez. Si vous ne venez pas, j'avertis la police.
Et il a raccroché. François posait le téléphone à terre.
Un maître chanteur, merde!
Décide d'aller voir à sa boîte aux lettres. Il y avait une clé. Il remonte chez lui.
Que dois-je faire ? Y aller ? Je ne peux pas faire autrement. Il prend son manteau et sort.
Il est parti à pied pour ne pas prendre sa voiture. Il vaut mieux. Une voiture, ça se reconnaît. Rue de 16, il entre dans l'immeuble numéro 5. C'est un vieil immeuble sans style. Il monte au premier. La porte n'a pas de plaque à nom. Il sonne. Il attend un peu, puis prend la clé de sa poche et ouvre la porte. Les volets sont fermés, il fait sombre, il trouve l'interrupteur de la lumière. Petit couloir. Une porte est ouverte au fond du couloir. Il y va. Il est clair. C'est un salon rouge et or, 1900. Entre pour s'asseoir dans un fauteuil. Après une demi-heure d'attente, il se lève. et marche dans le salon et regarde sur les murs, les tableaux. Ce sont des paysages ou des natures mortes. Les bibelots sur la table. Tout semble vieux, mort. Une sensation étrange l'envahit. Tous ces napperons, vases, remplis de fleurs séchées. Tout à coup, il voit sur une table basse la photographie de Nathalie. Il panique, regarde autour de lui. Tout semble lui rappeler la jeune fille. Il ne supporte pas ce décor et se dirige vers la sortie du salon. Longe le couloir. Et juste au moment où il arrive vers la porte de l'appartement, il entend bruit de clé et des pas dans les escaliers. Il prend la poignée de la porte, la clé pour ouvrir, tourne la serrure. Mais la porte est fermée, en plus par un verrou qui marche avec une clé des deux côtés. Merde ! Il cogne la porte avec ses poings. Qui m'a enfermé ici ? C'est un piège ! Alors, il court dans l'appartement apeuré. Regarde partout s'il n'y a pas une porte de service. Essoufflé, désespéré, la nuit est tombée. Il sent dans ses poches ses clés. Il court à la porte d'entrée, les essayer pour le verrou. Mais non, ça ne marche pas. Je suis foutu. Dans un piège. Il court à la cuisine, ouvrir la fenêtre. Elle donne dans la cour. Petite cour avec un mur au fond. Un étage, c'est haut. Regarde le rebord de la fenêtre et le long du mur. Il voit un chéneau, un bras plus loin, monte sur le rebord de la fenêtre. Tend le bras, attrape le chéneau d'une main, puis de deux, et plaque tout son corps dessus, il se laisse glisser. Heureusement que la cour n'est pas éclairée. Il ne regarde pas le bas. Ses bras, ses mains lui font mal. Il sent ses plaies qui se posent sur le couvercle de conteneur de poubelle qui est contre le mur. Il a eu de la chance. Il saute du conteneur. Essoufflé, en sueur, le visage, les mains, les vêtements sales, il court vers la porte de l'allée. Merde ! Elle est fermée. Il se dirige vers le mur pour prendre un conteneur. Le met contre le mur. Monte dessus, escalade le mur et saute. Il court pour aller chez lui. Tout à coup, il s'aperçoit qu'il a oublié les clés chez Mathilde. Si je les laisse, on risque de me retrouver. Il court les chercher.
de l'allée. Tant pis. Je vais pas repasser pour le mur, par le mur.
La porte était ouverte. Il est entré, a trouvé les clés à terre et se sauve en courant. Le lendemain matin, il achète les journaux pour voir si on ne parle pas de la mort de Mathilde. Non, il n'y a rien. Le lendemain matin, à la sortie du lycée, un homme l'accoste. C'est un homme, une cinquantaine d'années, les cheveux grisonnants et assez forts.
Monsieur François Leclerc?
Oui?
Je suis le voisin de Mathilde Granger. Je vous ai vu partir avec sa voiture le matin de sa mort.
Et l'homme court, prend un solex et file. Sa course a été si rapide que François n'a pu réagir. Le soir chez lui, il corrige les devoirs de ses élèves. L'on sonne à la porte. Il sort du salon pour aller ouvrir. C'est Béatrice, une femme blonde, grande, mince, en tailleur jaune. Elle a le regard d'une femme qui excite.
Bonjour François.
Bonjour Béatrice. Elle entre et y ferme la porte.
Elle se pince son cou, puis l'embrasse et lui demande:
je t'ai manqué.
Oui. Elle le regarde avec un sourire moqueur et lui donne un coup avec son sac dans le ventre.
Menteur! Si je t'avais manqué, tu m'aurais téléphoné.
Je n'ai pas eu le temps. Je suis débordé de travail. Elle hausse les épaules et va au salon. Il la suit. Elle voit la pile de cahiers sur la table.
Tu étais en train de corriger?
Oui. Elle s'assoit sur le divan.
Tu en as pour longtemps?
Une heure, à peu près.
Sers-moi à boire.
Il va chercher un verre et une bouteille et la sert.
Puis va reprendre ses copies.
Pendant qu'il travaille, elle boit en le regardant. Une demi-heure plus tard, il a fini. Il va s'allonger près d'elle. Il met sa tête sur ses genoux. Elle lui caresse ses cheveux.
Pauvre petit homme qui n'a pas le temps de grandir. Toujours après ses leçons. Que pis.
Elle l'embrasse sur le front.
Tu sais combien de temps cela fait que nous n'avons pas fait l'amour. Tu as de la chance que je t'aime. 6 mois. Oui, 6 mois. La dernière fois, tu es tombé malade. Tu as vomi toute la nuit.
Je sais, mais ce soir, je ne suis pas en forme. J'ai eu une journée tellement pénible.
Elle est furieuse. Mais tout le monde a des journées pénibles. Et ça ne les empêche pas de faire l'amour le soir.
Je suis vraiment navrée.
Elle se lève d'un bond furieuse.
Tu devrais aller voir un médecin. Ce n'est pas normal d'être constamment malade.
Mais, ma chérie.
Oh, j'ai compris. Tu n'as plus envie de moi. Ou tu en aimes une autre.
Mais non. Elle prend sa pochette et sort de la pièce en claquant la porte. Il lui court après. Elle est déjà partie.
Chez lui, le lendemain soir, le téléphone sonne.
Oui, j'écoute.
Vous êtes François Leclerc?
Oui.
Je vous téléphone, c'est pour vous prévenir que la police vous recherche.
Et il a décroché. Le lendemain soir, il va prendre dans sa boîte aux lettres son courrier. Entré chez lui, il le dépose sur la table du salon. Il veut boire avant d'ouvrir son courrier, mais l'on sonne à la porte. C'est Béatrice.
Bonjour.
Bonjour. Elle entre, il ferme la porte.
Je suis venu m'excuser pour hier au soir.
Ce n'est rien. Et ils vont au salon. Elle va s'asseoir sur le canapé.
J'aimerais savoir ce que je dois m'attendre avec toi. Veux-tu continuer à me voir?
Oui, bien sûr. Tu veux boire?
Non, merci.
Et il va à sa table ouvrir son courrier. Dedans se trouve un petit paquet. Il l'ouvre.
Deux boucles d'oreilles en or.
Il les regarde. Elle le voit.
C'est pour qui?
Je ne sais pas.
Comment cela? Tu achètes des boucles d'oreilles et tu ne sais pas pour qui c'est?
Mais je n'ai rien commandé.
Elle va les lui prendre des mains. Elle lui les prend des mains.
Elles sont lourdes. Elles doivent être en or. C'est pour moi.
Si tu veux, elle prend le coffret. Et elle voit qu'il y a dedans une carte. La prend. Lit dessus. Nathalie. Elle remet les boucles d'oreilles dans la boîte et la lui donne.
Tiens, merci, c'est pas pour moi. Tu n'es qu'un lâche. Tu sais, tu n'as pas pu me dire que ce n'était pas pour moi. Et tu n'oses pas me dire que tu en aimes une autre.
Béatrice, je t'en prie, c'est faux.
Et Nathalie?
Mais non.
Je te reverrai que lorsque tu auras retrouvé la mémoire. Regarde-toi. Et regarde ce qu'il y a dans la boîte.
Et elle le quitte. Il ouvre la boîte et voit le Bristol. Furieux, il prend le papier et le coffret avec les boucles d'oreilles dedans et court pour les jeter dans le vide ordure de la cuisine. Il a peur. Il a peur et s'attend à ce qu'on le fasse chanter ou qu'on le dénonce à la police. Le lendemain matin, la sonnerie du téléphone retentit juste avant qu'il ne parte.
Oui, j'écoute.
Monsieur François Leclerc ?
Oui.
Oui. J'étais une vieille amie de Nathalie Granger. J'aimerais parler d'elle. Je sais où vous déjeunez à midi. J'y serai. Nous mangerons ensemble.
Mais madame...
Ne dites rien. Venez. Vous êtes peut-être sur écoute. Et elle décroche.
À midi, François va manger dans une brasserie, boulevard des Belges, entre le lycée et la gare des Brotteaux. Il n'y a presque personne. Une femme à chapeau et manteau jaune dans les 50 ans, très élégante, lui fait signe de s'asseoir à sa table.
Oui, c'est bien moi, venez.
Il s'approche d'elle, vers sa table.
Asseyez-vous, en face de moi.
C'est ce qu'il fait.
Comme je sais que vous êtes très pressé, je me suis permis de commander votre repas.
Celui que vous prenez habituellement. Mais j'ai décidé de prendre la même chose que vous. Elle fait signe au garçon de s'empresser de les servir.
Vous voyez, vous ne perdrez pas votre temps à cause de moi.
François ne sait quoi dire et penser. Elle lui dit,
mangez. Je sais que vous êtes la dernière personne qu'il avait vue.
Elle était très belle, n'est-ce pas? Mystérieuse. François la regarde et lui dit,
ne craignez rien, je ne suis pas la police.
Elle hausse les épaules et dit,
d'où venait-elle? On ne sait pas au juste. On sait qu'à un moment très bref, elle a été mariée à un diplomate, puis un homme d'affaires. Moi aussi je l'aimais. Pourquoi l'avez-vous tué?
Mais, dit François,
ne vous défendez pas. Tout le monde aurait voulu la tuer. Savez-vous, si elle avait une broche, c'est un talisman.
Tu veux dire ta conception?
Il lui dit, je ne sais pas.
Il le faudra, car l'on va croire que vous l'avez tué pour cela.
Elle regarde sa montre.
Alors,
oh,
selon toi, nous,
je dois vous coûter,
notre travail d'art,
car j'ai affaire. J'ai payé les deux repas.
Elle se lève et se sauve en courant. Le soir, chez lui, il trouve Béatrice dans sa chambre. Elle a les clés de son appartement. L'armoire ouverte, assise sur le lit, a fumé une cigarette. En le voyant, elle se lève. Et le gifle.
Que se passe-t-il?
Fumier, tu as une autre femme.
Elle se sauve en courant. Il va pour fermer l'armoire et voit sur un cintre le tailleur rose qu'avait Nathalie. Furieux, il prend le tailleur et pour aller le jeter dans le vide ordure. Le lendemain matin, il fait venir un serrurier pour faire mettre un verrou à sa porte. Le soir, il voit devant la porte de son immeuble une voiture de police. Une voiture s'est arrêtée à côté de lui. Dans la voiture, une femme lui dit « François Leclerc ?» Il se retourne « Ne rentrez pas chez vous, la police vous attend sur le palier. Venez !» Elle ouvre la portière, il entre dans la voiture, elle démarre. Il voit la femme. Elle a dans les 40 ans, porte un manteau bleu et des cheveux blonds. Ne craignez rien. Je vais vous mener en dehors de la ville. Je suis sa mère, ou presque. Vous l'avez tuée. Bien fait pour cette garce. Où est la broche? Je ne sais pas. Elle le mène à la campagne et arrête sa voiture dans une cour. Sort de voiture, elle ouvre son sac, en sort un revolver.
Descendez de voiture, c'est ce qu'il fait. Venez avec moi.
Elle le fait rentrer dans une maison. Elle le fait entrer dans une espèce de pièce. Il y a un lit, une table, ses sols et délabrés. Elle prend sur la table un verre.
Buvez.
Il boit.
Allongez-vous sur le lit.
C'est ce qu'il fait. Elle reste devant lui, le revolver à la main. Sa vue se trouble. Et il dort. Et il dort. Sa vue se trouble. Et il dort. Il se réveille, elle est assise à côté de lui. Il lui dit. Je veux vous protéger. Vous l'avez tuée, pourquoi? Je ne vous en veux pas, c'est bien fait pour elle. Où est la broche? Je n'ai jamais vu de broche. Prenez votre temps avant de me répondre. Il essaie de bouger, mais ne peut pas. Je vous ai drogué. Les jours passent, il est toujours allongé sur le lit. Un matin, avant qu'elle ne lui fasse sa piqûre, la sonnerie du téléphone retentit. Elle court répondre. Ce devait être très urgent car elle en oublie de fermer la porte de la chambre. Lui, il en profite pour sortir de la chambre. La porte de la maison est ouverte aussi. Il sort. Dehors, il va vers la voiture. Les portes de la voiture sont fermées. Il prend une pierre pour briser une glace. Il ouvre la portière. Dans la voiture, il réussit à mettre le contact en se servant d'une de ses clés. Et il démarre. Et fonce. De la fenêtre, la femme sourit. Il va à Lyon. Il va garer la voiture à Perrache. Arrivé chez lui, pas de flic. Il prend de l'argent liquide. Il ne peut pas me servir de mon chéquier, car il pourrait savoir qui je suis. Puis, il court pour aller gare de Perrache. Les rues sont désertes. Il fait nuit. Au bout d'un moment, il s'est arrêté de courir, essoufflé. Il entend derrière lui des pas. Il se retourne et croit reconnaître Nathalie. Oui, c'est elle. Nathalie ! Elle se met à courir. Il lui court après dans un dédale de rue. Il se dit, elle n'est pas morte, elle n'est pas morte. Loin de la voir entrer dans une maison, il entre aussi. C'est une soirée.
Ma copine, c'est ma copine.
Une femme l'attrape par le bras.
Bonjour, beau gars.
Oui.
Tu te fais danser?
Excusez-moi, mais je n'ai pas le temps. Et il se faufile dans ce monde. Il ne la trouve pas.
On s'entend bien toutes les deux.
Le temps passe.
Elle peut venir avec nous si tu veux.
Tard, les gens commencent à quitter la soirée. Ils regardent les gens qui partent. Ils ne la trouvent pas. Je l'ai perdue. Merde. Et il est parti. Au petit matin, il est pris en ses pensées, il ne s'est même pas rendu compte qu'il est retourné devant son immeuble. Il monte à l'étage, et là, devant sa porte, à l'heure qu'il allait ouvrir, on lui tape sur l'épaule. Il se retourne, la police. Monsieur François Leclerc, oui, veuillez nous suivre. Il ne résiste pas. À quoi bon? Au commissariat, on le mène chez un commissaire, un gros homme chauve, qui l'a fait asseoir sur une chaise. Ah, vous voilà enfin. Depuis longtemps que l'on vous cherchait, depuis le temps que l'on vous cherchait. Ah, au lycée, on était inquiet de ne plus vous revoir. Alors, vous allez être bien sage et nous dire pourquoi vous avez tué Nathalie Granger. Je ne l'ai pas tuée. La preuve, je l'ai revue. Je l'ai rencontrée ce soir. Le commissaire secoue la tête. Morte ou pas, elle doit l'être. Et c'est vous qui l'avez tuée. On ne peut pas faire autrement. Je vois que ça va prendre du temps. Nous allons vous mener chez vous. Vous prendrez des affaires pour quelques jours. La police, c'est-à-dire deux policiers en civil, sont allés chez
l'ont accompagné chez lui. Il met dans son sac de voyage des vêtements pour quelques jours.
Tout à coup, il reçoit sur la tête un coup de matraque.
Il se réveille avec un mal de tête. Voix penchée sur lui, Nathalie.
Chut. Non, je ne suis pas Nathalie, mais sa sœur jumelle. Ma sœur a été assassinée par un de ses amants, le chef de la police de Lyon. Lui, avec l'aide de ses subordonnés, font tout pour que vous soyez coupable et prouver que vous étiez très lié avec elle. En mettant chez vous des objets lui appartenant. Enfin, c'est ce qu'ils croient, car pour moi, vous êtes innocent. Ils ne savent pas qu'elle avait une sœur jumelle. Je ne vous fatigue pas trop, non? Bien, voilà. J'ai pensé à une chose, nous allons brouiller leurs cartes en vivant ensemble. Comme cela, ils ne sauront plus si elle est morte ou non. Je voulais vous dire aussi, c'est que la broche, c'est moi qui l'ai. Nous allons partir dans ma maison de campagne, celle où ma soeur vous a mené. Nous allons boire un café et partir. Qui m'a donné ce coup sur la tête? Un flic qui vous accompagnait et que je connais. Pourquoi? Pour nous laisser vous sauver. Assez pour cette question. Ou alors, qui a tué ma sœur? Vous ne dites rien? Je vais préparer le café. Deux heures plus tard, ils sont dans la maison où Nathalie l'avait menée. Cela lui fait drôle. Ils sont assis tous deux sur le canapé. Elle lui dit, « Je suis curieuse. J'aimerais savoir comment vous faites l'amour. » Elle se lève. « Venez. » Il se lève. Elle le mène dans une chambre. Elle enlève son pull. Elle est nue dessous. Laissez-moi savoir ce qu'a ressenti ma sœur avec vous. Elle lui met les bras au cou. J'ai souvent remplacé ma sœur auprès de ses amants. Elle l'embrasse sur les lèvres. Pendant qu'il la prend, il a une sensation étrange. Il lui semble de faire l'amour avec une morte, surtout qu'elle reste inerte lorsqu'il l'embrasse. Est-ce toi ou l'autre? Es-tu morte ou vivante? Puis, il lui vient une sensation de dégoût, comme toujours lorsqu'il fait l'amour. Je veux que ça finisse le plus vite possible. Je trouve ridicule ce corps qui se donne. Je veux que ça finisse. Je veux que ça finisse. Je veux. J'en ai assez. Il transpire. Met ses mains à son cou. Essaie. Elle ne peut pas se défendre car elle a son corps sur lui. Il sue. Il jouit. Elle est morte. Comme sa sœur. Après le crime, il se sent mieux. Respire. Il a joui, enfin. Puis se lève et s'habille.
sur son épaule, sort de la chambre et descend les escaliers. Il transpire, c'est lourd, et il sort de la maison. Dehors, il fait nuit. Il a jeté le corps dans le lac qui est derrière la maison et retourné se coucher. Il s'est endormi. Le lendemain matin, il se réveille. C'est le jour. Se souvient de rien, surpris de se trouver dans cette chambre. Il s'habille, sort de la chambre. Il reconnaît la maison, panique. Encore un coup monté ! Et il sort de la maison en courant. Dehors, il voit la voiture de la femme et rentre dedans. Elle était ouverte et les clés sont sur la voiture et il part. Radio Canu vous a présenté dans sa série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Poursuite contre la mort. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement.